dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu. Quatrième partie, dialogue 7 et 8.
Nous pouvons vous arrêter ici.
Je vous écoute.
Je dois vous dire d'abord que vous vous êtes trompé du tout au tout sur l'application de mes principes. Le despotisme se présente toujours à vos yeux avec les formes caduques du monarchisme oriental. Mais ce n'est pas ainsi que je l'entends. Avec des sociétés nouvelles, il faut employer des procédés nouveaux. Il ne s'agit pas aujourd'hui, pour gouverner, de commettre des iniquités violentes, de décapiter ses ennemis, de dépouiller ses sujets de leurs biens, de prodiguer les supplices. Non ! La mort, la spoliation, les tourments physiques ne peuvent jouer qu'un rôle assez secondaire dans la politique intérieure des États modernes.
C'est heureux.
Sans doute, oui, j'ai peu d'admiration, je l'avoue, pour vos civilisations à cylindres et à tuyaux. Mais je marche, croyez-le bien, avec le siècle. La puissance des doctrines auxquelles est attaché mon nom, c'est qu'elles s'accommodent à tous les temps et à toutes les situations. Machiavel, aujourd'hui, a des petits-fils qui savent le prix de ses leçons. On me croit bien vieux, et tous les jours je rajeunis sur la terre.
Vous raillez-vous ?
Écoutez-moi, vous en jugerez. Il s'agit moins aujourd'hui de violenter les hommes que de les désarmer, de comprimer leurs passions politiques que de les effacer, de combattre leurs instincts que de les tromper, et de proscrire leurs idées que de leur donner le change en se les appropriant.
Et comment cela ? Car je n'entends pas ce langage.
Permettez. C'est là la partie morale de la politique. Nous arriverons tout à l'heure aux applications. Le principal secret du gouvernement consiste à affaiblir l'esprit public au point de le désintéresser complètement des idées et des principes avec lesquels on fait aujourd'hui les révolutions. Dans tous les temps, les peuples comme les hommes se sont payés de mots. Les apparences leur suffisent presque toujours. Ils n'en demandent pas plus. On peut donc établir des institutions factices qui répondent à un langage et à des idées également factices. Il faut avoir le talent de ravir au parti cette phraséologie libérale dont ils s'arment contre le gouvernement. Il faut en saturer les peuples jusqu'à la lassitude, jusqu'au dégoût. On parle souvent aujourd'hui de la puissance de l'opinion. Je vous montrerai qu'on lui fait exprimer ce qu'on veut quand on connaît bien les ressorts cachés du pouvoir. Mais avant de songer à la diriger, il faut l'étourdir, la frapper d'incertitude par d'étonnantes contradictions, opérer sur elle d'incessantes diversions, l'éblouir par toutes sortes de mouvements divers, et l'égarer insensiblement dans ses voies. Un des grands secrets du jour est de savoir s'emparer des préjugés et des passions populaires de manière à introduire une confusion de principes qui rend tout entente impossible entre ceux qui parlent la même langue et ont les mêmes intérêts.
Où allez-vous avec ces paroles dont l'obscurité a quelque chose de sinistre ?
Si le sage Montesquieu entend mettre du sentiment à la place de la politique, je dois peut-être m'arrêter ici. Je n'ai pas prétendu me placer sur le terrain de la morale. Vous m'avez défié d'arrêter le mouvement dans vos sociétés, sans cesse tourmentées par l'esprit d'anarchie et de révolte. Voulez-vous me laisser dire comment je résoudrai le problème ? Vous pouvez mettre à l'abri vos scrupules en acceptant cette thèse comme une question de curiosité pure.
Soit.
Je conçois d'ailleurs que vous me demandiez des indications plus précises. J'y arriverai. Mais laissez-moi vous dire d'abord à quelles conditions essentielles le prince peut espérer aujourd'hui de consolider son pouvoir. Il devra s'attacher avant tout à détruire les partis, à dissoudre les forces collectives partout où elles existent, à paralyser dans toutes ces manifestations l'initiative individuelle. Ensuite, le niveau des caractères descendra de lui-même, et tous les bras molliront bientôt contre la servitude. Le pouvoir absolu ne sera plus un accident, il deviendra un besoin. Ces préceptes politiques ne sont pas entièrement nouveaux, mais, comme je vous le disais, ce sont les procédés qui doivent l'être. Un grand nombre de ces résultats peut s'obtenir par de simples règlements de police et d'administration. Dans vos sociétés si belles, si bien ordonnées, à la place des monarques absolus, vous avez mis un monstre qui s'appelle l'État. nouveau briarée dont les bras s'étendent partout, organisme colossal de tyrannie à l'ombre duquel le despotisme renaîtra toujours. Eh bien, sous la vocation de l'État, il ne sera plus facile que de consommer l'œuvre occulte dont je vous parlais tout à l'heure, et les moyens d'action les plus puissants, peut-être, seront précisément ce que l'on aura le talent d'emprunter à ce même régime industriel qui fait votre admiration. À l'aide du seul pouvoir réglementaire, j'instituerai, par exemple, d'immenses monopoles financiers, réservoirs de la fortune publique, dont dépendrait si étroitement le sort de toutes les fortunes privées qu'elles s'engloutiraient avec le crédit de l'État le lendemain de toute catastrophe politique. Vous êtes un économiste, Montesquieu. Pesez la valeur de cette combinaison. Chef du gouvernement, tous mes édits, toutes mes ordonnances tendraient à constamment au même but, annihiler les forces collectives et individuelles, développer démesurément la prépondérance de l'État, en faire le souverain protecteur, promoteur et rémunérateur. Voici une autre combinaison empruntée à l'ordre industriel. Dans le temps actuel, l'aristocratie, en tant que force publique, a disparu. Mais la bourgeoisie territoriale est encore un élément de résistance dangereux pour les gouvernements, parce qu'elle est d'elle-même indépendante. Il peut être nécessaire de l'appauvrir ou même de la ruiner complètement. Il suffit pour cela d'aggraver les charges qui pèsent sur la propriété foncière, de maintenir l'agriculture dans un état d'infériorité relative, de favoriser à outrance le commerce et l'industrie, mais principalement la spéculation. Car la trop grande prospérité de l'industrie peut elle-même devenir un danger en créant un nombre trop considérable de fortunes indépendantes. Nous réagira utilement contre les grands industriels, contre les fabricants, par l'excitation à un luxe disproportionné, par l'élévation du taux des salaires, par des atteintes profondes habilement portées aux sources de la production. Vous n'avez pas besoin de développer ces idées. Vous sentez à merveille dans quelles circonstances et sous quel prétexte tout cela peut se faire. L'intérêt du peuple est même une sorte de zèle pour la liberté, pour les grands principes économiques, couvriront aisément, si on le veut, le véritable but. Il est inutile d'ajouter que l'entretien perpétuel d'une armée formidable, sans cesse exercée par des guerres extérieures, doit être le complément indispensable de ce système. Il faut arriver à ce qu'il n'y ait plus dans l'État que des prolétaires, quelques millionnaires et des soldats.
Continuez.
Voilà pour la politique intérieure de l'État. À l'extérieur, il faut exciter d'un bout de l'Europe à l'autre la fermentation révolutionnaire que l'on comprime chez soi. Il en résulte deux avantages considérables. L'agitation libérale au dehors fait passer sur la compression du dedans. De plus, on tient par là en respect toutes les puissances chez lesquelles on peut à son gré faire de l'ordre ou du désordre. Le grand point est d'enchevêtrer par des intrigues de cabinet tous les fils de la politique européenne de façon à jouer tour à tour les puissances avec qui l'on traite. Ne croyez pas que cette duplicité, si elle est bien soutenue, puisse tourner au détriment d'un souverain. Alexandre VI ne fit jamais que tromper dans ses négociations diplomatiques, et cependant il réussit toujours, tant il avait la science de l'astuce. Mais dans ce que vous appelez aujourd'hui le langage officiel, il faut un contraste bravant, et de là on ne saurait affecter trop d'esprit de loyauté et conciliation. Les peuples qui ne voient que l'apparence des choses feront une réputation de sagesse au souverain qui saura se conduire ainsi. À toute agitation intérieure, il doit pouvoir répondre par une guerre extérieure, à toute révolution imminente par une guerre générale. Mais comme en politique, les paroles ne doivent jamais être d'accord avec les actes, il faut que, dans ces diverses conjonctures, le prince soit assez habile pour déguiser ses véritables desseins sous des desseins contraires. Il doit toujours avoir l'air de céder à la pression de l'opinion quand il exécute ce que sa main a secrètement préparé. Pour résumer d'un mot tout le système, la révolution se trouve contenue dans l'État, d'un côté par la terreur de l'anarchie, et de l'autre par la banqueroute, et à tout prendre, par la guerre générale. Vous avez pu voir déjà, par les indications rapides que je viens de vous donner, quel rôle important l'art de la parole est appelé à jouer dans la politique moderne. Je suis loin, comme vous le verrez, de dédaigner la presse, et je serais au besoin me servir de la tribune. L'essentiel est d'employer contre ses adversaires toutes les armes qu'il pourrait employer contre vous. Non content de m'appuyer sur la force violente de la démocratie, je voudrais emprunter aux subtilités du droit leurs ressources les plus savantes. Quand on prend des décisions qui peuvent paraître injustes ou téméraires, il est essentiel de savoir les énoncer en de bons termes et de les appuyer des raisons les plus élevées de la morale et du droit. Le pouvoir que je rêve, bien loin, comme vous le voyez, d'avoir des mœurs barbares, doit attirer à lui toutes les forces et tous les talents de la civilisation au sein de laquelle il vit. Il devra s'entourer de publicistes, d'avocats, de jurisconsultes, d'hommes de pratique et d'administration, de gens qui connaissent à fond tous les secrets et tous les ressorts de la vie sociale, qui parlent tous les langages, qui aient étudié l'homme dans tous les milieux. Il faut les prendre partout, n'importe où, car ces gens-là veulent des services étonnants par des procédés ingénieux qu'ils appliquent à la politique. Il faut avec cela tout un monde d'économistes, de banquiers, d'industriels, de capitalistes, d'hommes à projet, d'hommes à millions, car tout au fond se résoudra par une question de chiffres. Quant aux principales dignités, aux principaux démembrements du pouvoir, on doit s'arranger pour les donner à des hommes dont les antécédents et les caractères mettent un abîme entre eux et les autres hommes, dont chacun n'est à attendre que la mort ou l'exil en cas de changement de gouvernement, et soit dans la nécessité de défendre jusqu'au dernier souffle tout ce qui est. Supposez pour un instant que j'ai à ma disposition les différentes ressources morales et matérielles que je viens de vous indiquer, et donnez-moi maintenant une nation quelconque, entendez-vous? Vous regardez comme un point capital dans l'esprit des lois de ne pas changer le caractère d'une nation quand on veut lui conserver sa vigueur originelle. Eh bien, je ne vous demanderai pas 20 ans pour transformer de la manière la plus complète le caractère européen le plus indomptable et pour le rendre aussi docile à la tyrannie que celui du plus petit peuple de l'Asie.
Vous venez d'ajouter, en vous jouant, un chapitre au traité du prince. Quelles que soient vos doctrines, je ne les discute pas. Je ne vous fais qu'une observation. Il est évident que vous n'avez nullement tenu l'engagement que vous aviez pris. L'emploi de tous ces moyens suppose l'existence du pouvoir absolu. Et je vous ai demandé précisément comment vous pourriez l'établir dans des sociétés politiques qui reposent sur des institutions libérales.
Votre observation est parfaitement juste, et je n'entends pas y échapper. Ce début n'était qu'une préface.
Je vous mets en présence d'un État fondé sur des institutions représentatives, monarchie ou république. Je vous parle d'une nation familiarisée de longue main avec la liberté. Et je vous demande comment, de là, vous pourrez retourner au pouvoir absolu.
Rien n'est plus facile.
Voyons.
Je prends l'hypothèse qui m'est le plus contraire. Je prends un État constitué en république. Avec une monarchie, le rôle que je me propose de jouer serait trop facile. Je prends une république parce qu'avec une semblable forme de gouvernement, je vais rencontrer une résistance presque insurmontable en apparence, dans les idées, dans les mœurs, dans les lois. Cette hypothèse vous contrarie-t-elle? J'accepte de vos mains un État, quelle que soit sa forme, grand ou petit. Je le suppose doté de toutes les institutions qui garantissent la liberté, et je vous adresse cette seule question. Croyez-vous le pouvoir à l'abri d'un coup de main ou ce que l'on appelle aujourd'hui un coup d'État?
Non, cela est vrai. Mais vous m'accorderez du moins qu'une telle entreprise sera singulièrement difficile dans les sociétés politiques contemporaines, telles qu'elles sont organisées.
Et pourquoi? Ces sociétés ne sont-elles pas, comme de tout temps, en proie à des factions? N'y a-t-il pas partout des éléments de guerre civile, des partis, des prétendants?
C'est possible. Mais je crois pouvoir vous faire sentir d'un mot où est votre erreur. Ces usurpations, nécessairement très rares parce qu'elles sont pleines de périls et qu'elles répugnent aux mœurs modernes, en supposant qu'elles réussissent, n'aurait nullement l'importance que vous paraissez leur attribuer. Un changement de pouvoir n'amènerait pas un changement d'institution. Un prétendant troublera l'État, soit. Son parti triomphera, je l'admets. Le pouvoir est en d'autres mains, voilà tout. Mais le droit public et le fond même des institutions restent d'aplomb. C'est là ce qui me touche.
Est-il vrai que vous ayez une telle illusion ?
Établissez le contraire.
Vous m'accordez donc pour un moment le succès d'une entreprise armée contre le pouvoir établi ?
Oui.
Remarquez bien alors dans quelle situation je me trouve placé. J'ai supprimé momentanément tout pouvoir autre que le mien. Si les institutions encore debout peuvent élever devant moi quelque obstacle, c'est de pure forme. En fait, les actes de ma volonté ne peuvent rencontrer aucune résistance réelle. Enfin, je suis dans cette condition extra-légale que les Romains appelaient d'un mot si beau et si puissamment énergique, la dictature. C'est-à-dire que je puis tout ce que je veux à l'heure présente, que je suis législateur, exécuteur, justicier et à cheval comme chef d'armée. Retenez ceci. Bon, maintenant j'ai triomphé par l'appui d'une faction, c'est-à-dire que cet événement n'a pu s'accomplir qu'au milieu d'une profonde dissension intérieure. On peut dire au hasard, mais sans se tromper, quelles en sont les causes ? Ce sera un antagonisme entre l'aristocratie et le peuple, ou entre le peuple et la bourgeoisie. Pour le fond des choses, ce ne peut être que cela. À la surface, ce sera un pêle-mêle d'idées, d'opinions, d'influences et de courants contraires, comme dans tous les États où la liberté aura été un moment déchaînée. Il y aura là des éléments politiques de toute espèce, des tronçons de partis autrefois victorieux, aujourd'hui vaincus, des ambitions effrénées, des convoitises ardentes, des haines implacables, des terreurs partout, des hommes de toute opinion et de toute doctrine, des restaurateurs, d'anciens régimes, des démagogues, des anarchistes, des utopistes, tous à l'œuvre, tous travaillant également de leur côté au renversement de l'ordre établi. Et que vaut-il conclure d'une telle situation ? Deux choses. La première, c'est que le pays a un grand besoin de repos et qu'il ne refusera rien à qui pourra le lui donner. Et la seconde, c'est qu'au milieu de cette division des partis, il n'y a point de force réelle, ou plutôt qu'il n'y en a qu'une, le peuple. Je suis moi-même un prétendant victorieux. Je porte, je suppose, un grand nom historique propre à agir sur l'imagination des masses. Comme Pisistrate, comme Néron, comme César même, je m'appuierai sur le peuple. C'est l'ABC de tout usurpateur. C'est là la puissance aveugle qui nous donnera le moyen de tout faire impunément. C'est là l'autorité. C'est là le nom qui couvrira tout. Le peuple en effet se soucie bien de vos fictions légales et de vos garanties constitutionnelles. J'ai fait le silence au milieu des factions, et maintenant vous allez voir comme genre je vais marcher. Peut-être vous rappelez-vous les règles que j'ai établies dans le traité du prince pour conserver les provinces conquises. L'usurpateur d'un État est dans une situation analogue à celle d'un conquérant. Il est condamné à tout renouveler, à dissoudre l'État, à détruire la cité, à changer la face des mœurs. C'est là le but, mais dans les temps actuels, il n'y faut tendre que par des voies obliques, des moyens détournés, des combinaisons habiles, et autant que possible exemptes de violence. Je ne détruirai donc pas directement les institutions, mais je les toucherai une à une par un trait de main inaperçu qui en dérangera le mécanisme. Ainsi je toucherai tour à tour à l'organisation judiciaire, au suffrage, à la presse, à la liberté individuelle, à l'enseignement. Par-dessus les lois primitives, je ferai passer toute une législation nouvelle, qui, sans abroger expressément l'ancienne, la masquera d'abord, puis bientôt l'effacera complètement. Telles sont mes conceptions générales, maintenant. Vous allez voir les détails d'exécution.
Que n'êtes-vous encore dans les jardins de Rucellai, ô Machiavel ? Vous professez ces belles leçons, et combien il est regrettable que la postérité ne puisse pas vous entendre.
Rassurez-vous, pour qui sait lire, tout cela est dans le traité du prince.
Eh bien, vous êtes au lendemain de votre coup d'État. Qu'allez-vous faire ?
Bien une grande chose, puis une très petite.
Voyons d'abord la grande.
Après le succès d'un coup de force contre le pouvoir établi, Tout n'est pas fini, et les partis ne se tiennent généralement pas pour battus. On ne sait pas encore au juste ce que vaut l'énergie de l'usurpateur. On va l'essayer. On va se lever contre lui, les armes à la main. Le moment est venu d'imprimer une terreur qui frappe la cité entière et fasse défaillir les âmes les plus intrépides.
Qu'allez-vous faire? Vous m'aviez dit que vous aviez répudié le sang.
Il ne s'agit pas ici de fausse humanité. La société est menacée, elle est en état de légitime défense. L'excès des rigueurs et même de la cruauté préviendra pour l'avenir de nouvelles effusions de sang. Oh, ne me demandez pas ce que l'on fera. Il faut que les âmes soient terrifiées une fois pour toutes et que la peur les détrempe.
Oui, je me rappelle. C'est là que vous enseignez dans le traité du prince en racontant la sinistre exécution de Borgia dans Cézanne. Vous êtes bien le même.
Non, non, vous le verrez plus tard. Je n'agis ainsi que par nécessité et j'en souffre.
Mais qui donc le versera, ce sang?
L'armée! Cette grande justicière des États, elle dont la main ne déshonore jamais ses victimes. Deux résultats de la plus grande importance seront atteints par l'intervention de l'armée dans la répression. À partir de ce moment, d'une part, elle se trouvera pour toujours en hostilité avec la population civile, qu'elle aura châtiée sans ménagement, et de l'autre, elle se rattachera d'une manière indissoluble au sort de son chef.
Et vous croyez que ce sang ne retombera pas sur vous?
Non! Car aux yeux du peuple, le souverain, en définitive, est étranger aux excès d'une soldatesque qui n'est pas toujours facile de contenir. Ceux qui pourront en être responsables, ce seront les généraux ou les ministres qui auront exécuté mes ordres. Ceux-là, je vous l'affirme, seront dévoués jusqu'à leur dernier soupir, car ils savent bien ce qui les attendrait après moi.
C'est donc là votre premier acte de souveraineté. Voyons maintenant le second.
Je ne sais si vous avez remarqué quelle est en politique la puissance des petits moyens. Après ce que je viens de vous dire, je ferai frapper à mon effigie toute la nouvelle monnaie dont j'émettrai une quantité considérable.
Mais au milieu des premiers soucis de l'État, ce serait une mesure puérile.
Vous croyez cela, mais vous n'avez pas pratiqué le pouvoir. L'effigie humaine imprimée sur la monnaie, c'est le signe même de la puissance. Au premier abord, il y aura des esprits orgueilleux qui en tressailleront de colère, mais on s'y habituera. Les ennemis même de mon pouvoir seront obligés d'avoir mon portrait dans leur escarcelle. Il est bien certain que l'on s'habitue peu à peu à regarder avec des yeux plus doux les traits qui sont partout imprimés sur le signe matériel de nos jouissances. Du jour où mon effigie est sur la monnaie, je suis roi.
J'avoue que cet aperçu est nouveau pour moi, mais passons. Vous n'avez pas oublié que les peuples nouveaux ont la faiblesse de se donner des constitutions qui sont les garanties de leurs droits. Avec votre pouvoir issu de la force, avec les projets que vous me révélez, vous allez peut-être vous trouver embarrassé en présence d'une charte fondamentale dont tous les principes, toutes les règles, toutes les dispositions sont contraires à vos maximes de gouvernement.
Je ferai une autre constitution, voilà tout.
Et vous pensez que cela ne sera pas autrement difficile?
Où serait la difficulté? Il n'y a pas pour le moment d'autre volonté, d'autre force que la mienne, et j'y ai pour base d'action l'élément populaire.
C'est vrai. J'ai pourtant un scrupule. D'après ce que vous venez de me dire, j'imagine que votre constitution ne sera pas un monument de liberté. Vous pensez qu'il suffira d'une seule crise de la force, d'une seule violence heureuse pour ravir à une nation tous ses droits? Toutes ces conquêtes, toutes ces institutions, tous les principes avec lesquels elle a pris l'habitude de vivre?
Permettez, je ne vais pas si vite. Je vous disais il y a peu d'instants que les peuples étaient comme les hommes, qu'ils tenaient plus aux apparences qu'à la réalité des choses. C'est là en politique une règle dont je suivrai scrupuleusement les indications. Veuillez me rappeler des principes auxquels vous tenez le plus, et vous verrez que je n'en suis pas aussi embarrassé que vous paraissez le croire.
Qu'allez-vous en faire, ô Machiavel?
Ne craignez rien, nommez-les-moi.
Je ne m'y fie point, je vous l'avoue.
Eh bien, je vous les rappellerai moi-même. Vous ne manqueriez sans doute pas de me parler du principe de la séparation des pouvoirs, de la liberté de la parole et de la presse, de la liberté religieuse, de la liberté individuelle, du droit d'association, de l'égalité devant la loi, de l'inviolabilité de la propriété et du domicile, du droit de pétition, du libre consentement de l'impôt, de la proportionnalité des peines, de la non-rétroactivité des lois. En est-ce assez ou en souhaitez-vous encore?
Je crois que c'est beaucoup plus qu'il n'en faut, Machiavel, pour mettre votre gouvernement mal à l'aise.
Ah, c'est là ce qui vous trompe. Et cela est si vrai que je ne vois nul inconvénient à proclamer ces principes. J'en ferai même, si vous le voulez, le préambule de ma constitution.
Vous m'avez déjà prouvé que vous étiez un grand magicien.
Il n'y a point de magie là-dedans. Il n'y a que du savoir-faire politique.
Mais comment? Ayant inscrit ces principes en tête de votre constitution, vous y prendrez-vous pour ne pas les appliquer?
Ah, oh, prenez garde. Je vous ai dit que je proclamerai ces principes, mais je ne vous ai pas dit que je les inscrirai, ni même que je les désignerai expressément.
Comment l'entendez-vous?
Mais je n'entrerai dans aucune récapitulation. Je me bornerai à déclarer au peuple que je reconnais, que je confirme les grands principes du droit moderne.
La portée de cette réticence m'échappe.
Vous allez reconnaître combien elle est importante. Si j'énumérais expressément ces droits, ma liberté d'action serait enchaînée vis-à-vis de ceux que j'aurais déclarés. C'est ce que je ne veux pas. En ne les nommant point, je parais les accorder tous et je n'en accorde spécialement aucun. Cela me permettra plus tard d'écarter par voie d'exception ce que je jugerais dangereux.
Je comprends.
Parmi ces principes, d'ailleurs, les uns appartiennent au droit politique et constitutionnel, proprement dit, les autres au droit civil. C'est là une distinction qui doit toujours servir de règle dans l'exercice du pouvoir absolu. C'est à leur droit civil que les peuples tiennent le plus. Je n'y toucherai pas, si je puis. Et de cette manière, une partie de mon programme, au moins, se trouvera remplie.
Et quant au droit politique?
J'ai écrit dans le traité du prince la maxime que voici, et qui n'a pas cessé d'être vraie. Les gouvernés seront toujours contents du prince, lorsqu'il ne touchera ni à leur bien, ni à leur honneur, et dès lors il n'a plus à combattre que les prétentions d'un petit nombre de mécontents dont il vient facilement à bout. Ma réponse à votre question est là.
On pourrait, à la rigueur, ne pas la trouver suffisante. On pourrait vous répondre que les droits politiques aussi sont des biens, qu'il importe aussi à l'honneur des peuples de les maintenir, et qu'en y touchant, vous portez en réalité atteinte à leurs biens, comme à leur honneur. On pourrait ajouter encore que le maintien des droits civils est lié au maintien des droits politiques par une étroite solidarité. Qui garantira les citoyens que si vous les dépouillez aujourd'hui de la liberté politique, vous ne les dépouillerez pas demain de la liberté individuelle? Que si vous attentez aujourd'hui à leur liberté, vous n'attenterez pas demain à leur fortune?
Il est certain que l'argument est présenté avec beaucoup de vivacité, mais je crois que vous en comprenez parfaitement aussi l'exagération. Vous semblez toujours croire que les peuples modernes sont affamés de liberté. Mais avez-vous prévu le cas où ils n'en veulent plus? Et pouvez-vous demander aux princes d'avoir pour elles plus de passion que n'en ont les peuples? Or, dans vos sociétés si profondément relâchées, où l'individu ne vit plus que dans la sphère de son égoïsme et de ses intérêts matériels, interrogez le plus grand nombre, et vous verrez si de tous côtés on ne vous répond pas « Oh, que me fait la politique? Que m'importe la liberté? Est-ce que tous les gouvernements ne sont pas les mêmes? Est-ce qu'un gouvernement ne doit pas se défendre ?» Remarquez-le bien d'ailleurs, ce n'est pas même le peuple qui tiendra ce langage. Ce sont les bourgeois, les industriels, les gens instruits, les riches, les lettrés, tous ceux qui sont en état d'apprécier vos belles doctrines de droit public. Ils me béniront, ils s'écrieront que je les ai sauvés, qui sont en état de minorité, qui sont incapables de se conduire. Tenez, les nations, je ne sais quel secret amour pour les vigoureux génies de la force. À tous les actes violents marqués du talent de l'artifice, vous entendrez dire avec une admiration qui surmontera le blâme, « C'est pas bien, soit, mais c'est habile, c'est bien joué, c'est fort. »
Vous allez donc rentrer dans la partie professionnelle de vos doctrines.
Non, pardon, nous en sommes à l'exécution. J'aurais certainement fait quelques pas de plus si vous ne m'aviez obligé à une digression.